Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Campus 99.5. Vous êtes avec nous pour un petit coup de bulle. Alors aujourd'hui, il y a Philippe qui est là.
Bonjour.
Élie.
Bonjour.
Et puis moi-même, Florence. Et on a décidé que dans ce contexte un peu compliqué où on nous coince de plus en plus chez nous, on avait envie de vous emmener en voyage. Donc c'est le thème de l'émission aujourd'hui, on va voyager en BD.
Absolument, et on vous a préparé quelques titres, on va vous présenter quelques titres assez sympas, des choses peut-être plus anciennes, voilà. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui on n'est que trois, d'habitude on est quatre, voire cinq, mais bon, les conditions sont pas top. Mais ça n'empêche que vous verrez, vous découvrirez tout à l'heure qu'on a essayé d'inviter les absents, qui pour une fois n'ont pas forcément tort. Mais on a une nouvelle rubrique à vous proposer.
Petite surprise.
Exactement. On a une petite surprise pour vous.
Donc on va envoyer la première chanson qui est Tevani, Flying Fishes. Tevani est un petit trio tourangeau qui fait de la bonne musique et voilà, c'est leur dernier titre.
We can compensate. Flying fishes with fur, knitting new happy stories. It's just to be sold to the ignorant youth. How we can compensate. I can see the future.
can see the future. I can see the future. I can see the future.
Voilà, vous avez entendu Tevani, un petit trio tourangeau qu'on vous conseille et qu'on a hâte de pouvoir revoir
oui.
sur scène.
Vivement les retrouver. Ça manque, ça manque.
Ah, les concerts manquent.
Alors, c'est à Élie de jouer. Tu ouvres le bal, mon cher Élie.
Élie, c'est parti.
Où est-ce que tu nous emmènes en voyage ?
Dans l'espace.
Ah.
Dans l'espace avec Descender de Jeff Lemire au scénario et de Destin Nguyen au dessin. Sorti chez Urban en 2016 ou 2017, je ne sais plus. Et en fait, ça va vous raconter l'histoire de l'humanité dans l'espace après les ravages d'une armée de robots appelés les moissonneurs qui ont débarqué alors que toute la galaxie en fait a des robots. Tout le monde a des robots et en fait les moissonneurs, les fameux robots, ont détruit tout ou presque. Mm-hmm. Et en fait, ça c'est le point de départ et en fait ils se rendent compte qu'il y a un petit robot qui s'appelle Team 21. Forcément, c'est un robot, qui a le même code informatique que les moissonneurs. Donc tout le monde le cherche, et en fait, ça va nous faire voyager dans tout l'espace, parce que tout le monde cherche ce robot.
Mais on ne sait pas quel aspect il a, ni ce qu'il
si,
fait.
Si, c'est un petit robot
c'est
androïde.
C'est celui qu'on voit sur la couverture ?
C'est celui qu'on voit, non, oui, c'est celui qu'on voit sur la couverture.
D'accord.
Donc, c'est un petit garçon.
D'accord, oui, c'est un humanoïde, c'est un robot humanoïde.
Oui, c'était un robot de compagnie, parce qu'en fait, là, les robots servent à peu près à tout, et justement, pour ne pas faire peur aux humains, ils leur ont donné des visages d'hommes, pour certains.
D'accord.
Ou de petits garçons.
Des petits garçons, oui.
Alors, c'est vrai qu'en regardant tout à l'heure la quatrième de couverture, là, je voyais qu'il y avait une référence à Asimov. Et je pense que du coup, là, les robots, est-ce que dans le, comment dire, dans le récit, il y a des références à Asimov et aux trois lois de
oui,
les robots.
Il y a des références aux trois lois de la robotique qui sont, sans spoiler plus que ça, sont mises à mal.
Joyeusement.
Joyeusement, parce que les robots, en fait, à force d'être détruits, parce que, vu que les moissonneurs ont détruit une partie, il y a un front anti-robot. Donc les robots ont basculé parce que leur intelligence artificielle étant ce qu'elle est, ils ont pu évoluer et maintenant ils sont aussi doués de conscience, entre guillemets.
Alors, faudrait peut-être rappeler ce que c'est quand même ces trois règles.
Oui,
parce que alors, tout le monde ne les connaît pas.
De tête, je ne pourrais pas, mais grosso modo, l'objectif, enfin, tu les connais peut-être.
Non, moi, je me souviens que le robot n'a pas le droit de porter atteinte à la vie humaine.
Les trois lois de la vie, c'est qu'un robot ne peut pas faire atteinte à la vie humaine.
Mm-hmm.
La deuxième loi du robot, c'est qu'il doit tout faire pour l'humain avec qui il est, sauf si c'est enfin une des deux lois.
Mm.
Le cercle un peu parfait.
Et donc, un des grands... Dans ses récits des robots, puisque c'était souvent des recueils de nouvelles, Asimov a essayé de trouver des moyens de contourner ces trois lois de la robotique.
Les failles.
Absolument.
Là, en fait, les failles sont trouvées par l'intelligence artificielle étant ce qu'elle est. Parce que on est dans un récit futuriste, dans l'espace, où tout est possible.
Et alors, pourquoi se gêner ? Faut y aller, donc.
Quitte à y aller, surtout que là, c'est conflit entre robots et humains, savoir qui est le plus humain, les robots, les...
Oui. C'est un récit en un tome ? Il y a plusieurs tomes ?
Non, il y en a six.
D'accord. Ah oui, et tu les as tous ?
Je les ai tous.
C'est fini, ça y est ?
C'est fini.
T'es content de la fin ? C'est pas trop...
Non, je suis très content de la fin. Ouais.
D'accord, ça c'est bien, ils ont bien ficelé le scénar.
C'est ça, et en plus, il est parti, là, petite digression, il est parti sur une suite.
Ah ah.
Qui s'appelle Ascender, qui c'est bien aussi.
Qui a déjà commencé à sortir ?
Qui a déjà commencé à sortir, on en est au 3, je crois que le troisième tome est sorti là, récemment en France.
Et ils sont bons Urban Comics pour les longues séries bien foutues quand
surtout
même.
Qu'ils sont très bons aussi sur l'indé. En fait, ils récupèrent plein d'auteurs indés de chez Image Comics principalement. Les principales fourvoyeurs de bonnes BD indés américaines.
Mais alors du coup, ce voyage, parce qu'on voyage dans l'espace, on va sur d'autres planètes
On va sur d'autres planètes, sur des planètes qui sont ou ravagées, ou des anciennes mines, ou... Les colonies minières, ou toute une galerie de personnages, nos débuts robots assez hilarants d'ailleurs. Il y en a qui s'appelle Forer, et c'est le basique. Forer.
Oui, on imagine avec un nom comme ça.
C'est son nom qui s'appelle Forer, parce que c'est sa fonction, mais il est très drôle. Sans en dévoiler plus que ça, il est très rigolo. Moi, je l'aime beaucoup, ce personnage. Parce qu'en fait, les robots sont des personnages à part entière. C'est pas juste quelque chose qui sert le récit. Parce que souvent, chez Jeff Lemire, en plus, il aime bien c'est tout ce qui touche à la filiation, à la famille et tout ça. Donc là, ça bascule un peu dans ce côté-là aussi. C'est les marottes de Jeff Lemire. Tout ce qu'il a fait concerne la famille et la filiation.
Il y a des familles de robots ?
Il n'y a pas de famille de robots.
Mais c'est bizarre.
Sans dévoiler plus que ça, en fait, il y a si on peut, parce que c'est vu dans les trois premières pages, en fait, il y a un des humains, c'était Team 21, était son robot de compagnie. Donc, il le recherche. Voilà, parce que c'est, pour lui, c'est son frère, en fait. Donc, c'est pour ça que ça, quelque part, il y a une famille de robots, parce que lui, pour lui, Team 21 fait partie de sa famille, en fait.
Très bien. Bah, écoute, merci, Ellie.
Et
oui.
Petite parenthèse. Jeff Lemire, en général, au scénar, c'est magnifique. Au dessin, il est moins bien. Là, il fait équipe avec Dustin Nguyen, qui fait tout à l'aquarelle. Il dessine à l'aquarelle et c'est juste magnifique.
Mais il a fait quoi d'autre de Dustin Nguyen ? Parce que le nom me parle.
Bah, il a fait tellement de choses.
Je pense qu'on a présenté une BD de lui dans cette émission il n'y a pas très longtemps. Parce que
en fait, c'est un des dessinateurs phares du comics indé. Donc, il a fait énormément de choses. Hein, ça, c'est sûr qu'on l'a forcément vu passer. Il a fait Gotham, l'île centrale aussi, par exemple. Les aventures de Batman, Robin, tout ça, mais en petit, en mignon, en kawaii, quoi. C'est très drôle.
Ok. Alors, Philippe.
Alors, voilà, c'est à mon tour. Moi, je vais vous présenter une bande dessinée. Alors, bon, je suis dans un créneau de science-fiction aussi.
C'est bien, ouais, c'est rigolo.
C'est, le voyage m'a aussi fait penser. Moi, alors, en plus du voyage dans l'espace, il est question de voyage dans le temps. Donc, je vais vous présenter une bande dessinée ancienne, très ancienne, très, très ancienne d'ailleurs, puisqu'elle est parue en 1970. Voilà. Donc, de nombreux auditeurs n'étaient pas encore nés.
Voire présentateurs. C'est bon.
Mais il s'agit de Valérian, de la première bande dessinée de Christin et Mézières, ce qui était donc Valérian Agiospatio-Temporel, c'est le titre de la série, et qui est là la cité des eaux mouvantes. Alors bon, Valérian, si vous avez eu l'occasion de voir le film de Besson, là on va dire oubliez ce que vous avez vu, même si
ça
le
n'a
film,
rien à voir.
C'est ça, même si le film, on peut en penser ce qu'on veut, mais là on est vraiment, c'est autre chose. Hein. Il a simplement repris le titre des deux personnes, enfin le nom des deux personnages principaux.
Avec une jolie nana pour faire Laureline.
C'est ça, mais qui est d'ailleurs
qui est très
jolie.
Jolie. Ah, alors ça, elle est jolie. Mais bon, à part ça, il manque plein de trucs aussi du personnage.
C'est ça, il manque plein de choses. Et du coup, voilà. Alors moi, ça m'a intéressé parce que je pense que c'était aussi pour parler de cette bande dessinée qui a été finalement la première d'une nouvelle génération de science-fiction. C'était beaucoup, à l'époque, intéressé au voyage dans l'espace. Et là, on était dans le voyage dans le temps puisque ça démarre. Alors Valérian est un agent spatio-temporel qui voyage dans le temps et qui arrive pour poursuivre un méchant qui s'appelle Zombul. ça s'invente pas, hein.
C'est un turc.
Mais qui voyage vers New York, qui vient de Galaxy City, hein, qui est dans le point central de tout l'univers. Et donc, il vient à New York en 1986. Hein, donc, la BD a été
c'est
écrite.
C'est de la science-fiction pour.
C'est ça.
c'est génial.
À New York en 1986. Et donc, ça nous raconte, finalement, on voit qu'il y a eu plein d'avanies, des catastrophes naturelles, d'autres moins naturelles, et New York est sous les eaux, une grande partie de la population mondiale a disparu, donc ça commence déjà dans un scénario apocalyptique, et on va rentrer dans ce qui est dit dans le récit, dans la période sombre, voilà, et Valérian, il revient, il est envoyé là pour rechercher un méchant, Xombul, donc, et on va, je vous raconte pas plus l'histoire que ça, mais on va quand même suivre ce qui est intéressant là-dedans, et ce pourquoi j'en parle, c'est que je trouve que cette bande dessinée a amené plein de choses, plein de nouveautés, notamment par exemple un duo, un personnage masculin, un personnage féminin, où la femme n'est pas qu'un faire-valoir du personnage masculin, et je trouve que ça, En 1970, c'était quand même un peu nouveau. Mmh. Elle est même beaucoup plus futée que lui. Et d'ailleurs, c'est très bien. Et des fois, ça le met un peu, comment dire, en rogne. Mais non, je trouve que ça c'était un point fort. Donc, on pourrait presque dire que c'était une BD féministe. Et puis, même dans l'approche, là aussi, alors c'était un peu la période pilote où on avait l'habitude d'y ajouter des personnages existants. Comme bon, évidemment, dans Astérix, il y en a eu des floppés, mais là, par exemple, le personnage, un des méchants, est Sonra. Enfin, c'est extrapolé de Sonra, qui était un jazzman à l'époque très très connu. Enfin, bon, voilà. Donc, il y a plein de petites choses comme ça, et puis ça amène, il y a aussi de l'humour. Enfin, on n'est pas. Voilà, puis c'est. On prend plaisir, on passe un bon moment. Donc j'avais envie d'en parler parce que pour moi, ça a été une des bandes dessinées que j'ai lues et relues et que là, j'ai même relu récemment et qui ma foi, m'a fait beaucoup, beaucoup voyager, hein, on peut le dire. Et puis que je relis toujours avec plaisir. Alors, petite chose, c'est qu'on est quand même dans ces années-là, dans la mode de... Il y a des tartines de texte.
Ah oui, c'est bavard.
Donc c'est très 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 bavard, hein, on peut le dire. Donc là, on est... Il devait faire un concours avec Jacobs, à mon avis.
Imbattable.
Là, on est... Il y a des demi-pages, des fois, qui sont pleines de texte. Bon, voilà. Donc moi, je vous le conseille. Alors, toute la série des Valérian est vraiment intéressante. Je pense que Christin et Mézières ont vraiment apporté beaucoup, puisqu'ils ont, d'ailleurs, dans le cinquième élément, il y a eu pas mal de choses qui ont été pompées dans Valérian.
Et je crois que Mézières a participé à la préparation du cinquième élément,
tout
et notamment les engins volants et certains décors. C'est lui,
c'est ça.
Hein.
C'est lui qui les a conçus, enfin imaginés et conçus, et tout à fait. Donc même les costumes, enfin bon, voilà. Donc c'est aussi c'est représentatif d'une époque et alors on pourrait dire que c'est une bande dessinée vintage, hein, puisque voilà.
Oui, moi c'était ma question. Par exemple, moi qui suis fan de comics, est-ce que c'est pas trop daté?
Ah bah c'est très
daté. Pour les jeunes lecteurs, parce qu'il y a des BD qui sont anciennes mais qui sont pas si marquées que ça. Là, ça marque vraiment son époque.
Ah oui, clairement. Clairement.
Bah, je pense qu'il y a deux réponses à donner à cette question. Enfin, il y en a plus que ça, mais d'un côté, oui, cette BD, elle est datée, et rien que de la voir, moi, je la vois à l'envers sur le bureau de mon voisin d'en face, mais les couleurs, le style graphique, oui, c'est les années 70. Après, les BD de Mézières et Christin, elles ont inventé la BD de science-fiction, c'est-à-dire que les fans de comics... Ils doivent connaître ces BD-là parce que c'est elles qui ont inventé ce qu'ils lisent aujourd'hui. On dit souvent que Star Wars, ce serait pas Star Wars sans cet imaginaire-là. C'est eux qui ont inventé le bistrot plein d'extraterrestres qui boivent un coup en ayant des têtes pas possibles. Je trouve que ça vaut le coup d'y faire au moins un tour parce que cette BD, elle a l'origine des autres, quelque part. Tu vois, c'est un peu la maman.
D'accord. C'est ma question parce que je lis aussi beaucoup de choses, je sais pas, que dans le comics, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont assez datées, marquées, et qui sont... des fois, c'est pas facile, quoi.
Mais il faudrait que tu les lises et que tu dises que...
C'est ça, ça pourrait être intéressant que tu donnes ton avis. Parce que moi, je trouve qu'en plus, même dans les thèmes ou dans l'approche de certains thèmes, il y a une grande modernité, quoi. Donc, c'est bon, voilà. Mais je pense qu'effectivement, les auditeurs peuvent aussi se faire une idée en allant voir, en acceptant de prendre le risque d'une lecture qui est un peu d'un album ancien. Parce que bon, 70, ça fait 50 ans, hein, quand même.
Ouais,
c'est sûr, mais bon.
C'est toujours bien de se plonger dans les bases aussi de ce qu'il fait, de ce qu'on aime. Enfin, moi, je suis fan de pop culture, donc c'est vrai que plonger dans les bases de tout ce qui est fait, moi, j'adore ça. Hein. C'est vrai que pour certains de nos auditeurs, peut-être que ça pourrait...
Non, c'est hyper intéressant comme question. Il faudrait voir effectivement, toi, ce que tu ressentiras de cette BD. Mais moi, je t'invite comme Philippe à la lire. Hein,
tout à fait. Ça pourrait être intéressant d'ailleurs qu'on fasse l'exercice nous-mêmes d'en relire, de chacun choisir une BD ancienne et qu'on les lise et qu'on vienne en parler pour voir un peu, pour avoir un avis. Voilà. Donc, je ne peux que vous le
Je pense que tu vas le prêter à Ellie. Moi, je te l'aurais bien piqué aussi parce que j'adore Valérian.
Alors, c'est un incunable, hein, les pages se barrent. Hein,
Elle est dans son jus, on va dire.
Alors, c'est génial parce que moi, la BD que je vais présenter après cette petite pause musicale, ce sera aussi une BD qui voyage un peu dans l'espace, mais alors encore dans un autre registre. Et puis, pour le moment, on va écouter un peu de musique. Hein ?
Ah
oui.
Qu'est-ce que tu nous mets, Élie ?
Eh ben, je veux être la BO du Seigneur des Anneaux.
Allez.
Pour voyager, c'est nickel.
Chouette.
Je parle. C'est à mon tour de parler en plus. Alors, donc nous sommes partis dans l'espace avec Élie, dans le temps avec Philippe. Moi, je vais vous emmener sur la Lune, enfin, entre autres.
Ah, c'est bien.
Et puis en Russie, et puis en Allemagne, et puis en Angleterre, et puis un peu partout. Éventuellement, on peut même y aller à boulet de canon, puisque le personnage de mon histoire aimait bien se balader dessus. Il s'agit du Baron de Münchhausen, qui est sorti en octobre 2020 par Jean-Luc Masbou. Aux éditions Delcourt. Voilà. Alors, cette BD. Bon, moi, je l'ai vue. Masbou, j'adore, mais en tant que dessinateur avec un scénariste à côté. Et j'ai eu peur. Je me suis dit, ouais, non, mais c'est sûr, un dessinateur tout seul qui n'a pas l'habitude de raconter. Ça va être joli, mais... Et puis, c'est un truc qui existe déjà. C'est un roman, il va juste adapter. Je ne l'ai pas acheté. Et puis, c'est une copine qui me l'a prêté il y a une ou deux semaines. Donc, ça tombait bien. Et je l'ai bouffé, ce livre, parce qu'il est savoureux, délicieux, joli, gentil. C'est vraiment une petite pépite. Donc, je vais le rendre à ma copine et puis je vais peut-être me l'acheter, je ne sais pas. Mais surtout, j'ai envie d'en parler, j'ai envie de le montrer, voilà, Parce que bah, dans l'ordre, je connaissais pas moi le baron de Münchhausen. Et là, j'ai été obligée de m'y intéresser suffisamment même pour après aller chercher sur internet l'histoire du vrai baron, parce qu'il a existé ce type. Et je me demande à quel point il était affabulateur, parce que dans cette bande dessinée, là, on le voit le vrai baron en fait. Ce que Masbou nous présente, c'est le baron qui découvre qu'on a écrit un bouquin sur lui. Et tous les gens du village qui attendent qu'ils viennent raconter ces histoires, parce que c'est tellement bien quand ils racontent. Et c'est ça qui est chouette, c'est que en fait, le personnage, moi, il me mettait mal à l'aise à l'époque où j'ai découvert un peu les histoires du baron, parce que je me disais, bon, bah, mythomane, quoi. Enfin, et en fait, comme Masbou le présente, c'est pas ça, c'est il aime vous faire rêver, il vous emmène quelque part, justement, il vous fait voyager. Et là, pour le coup, bah, ça le rend éminemment sympathique.
Et puis, en pleine période de confinement, c'est plutôt bien.
Quand on nous raconte
des histoires qui nous font voyager.
Et puis j'en ai trouvé d'autres versions en plus du baron. Donc j'ai lu, j'ai relu, parce que j'avais la version de Supio qui est sortie dans les années 2000. Alors je ne sais plus, je l'ai noté quelque part. Mais enfin, il a fait une trilogie, Les aventures oubliées du baron de Münchhausen. Et alors c'est marrant parce que sa façon à lui, alors évidemment il est dédicacé, parce que moi Supio j'aime beaucoup, et son baron à lui, il est pas marrant quand même, il est grave quand il raconte, mais en même temps il est prisonnier d'un sultan et il va peut-être se faire décapiter, alors ça rend pas forcément très à l'aise, mais ce qui est rigolo c'est qu'au regard de l'autre BD, bah, il m'a été tout de suite plus sympathique aussi, parce que bah, il fait du théâtre quoi. Il raconte, il met en scène, il est exagéré, enfin tout le temps, et ça marche parce que c'est obligatoirement exagéré. Si ça l'était pas, on le croirait pas en fait, quelque part. Alors du coup, je suis allée chercher aussi le film de Terry Gilliam, parce que un des Monty Python a quand même réalisé un film sur un personnage que je pense qu'il devait adorer depuis qu'il était tout petit, qui est complètement barré aussi, où il y a un Robin Williams qui fait le roi de la lune décapité, qui se promène avec sa tête seulement isolée de son corps, parce que le roi de la lune ne veut plus subir les contingences matérielles d'un corps qui pète, qui rote et qui mange et qui fornique. Et Robin Williams, hein, quand même, dans ce rôle-là. Et en fait, ça fait depuis qu'on m'a prêté cette BD, donc une semaine, deux semaines, que je rêve avec le baron. Et c'est vrai que là, en ce moment, c'est une BD indispensable, quoi.
Ça fait du bien.
Et puis, alors, pour les dessins, Masbou, donc vous connaissez, hein, de Cap et de Croc, entre autres, c'est la BD la plus connue, on dira. Là, c'est... il a fait un travail de recherche graphique. Alors, évidemment, les personnages sont toujours hyper expressifs. Les décors sont, je pense, encore plus beaux qu'avant, parce qu'il évolue tout le temps dans son dessin. Mais dans les mises en page et dans le traitement, par exemple, les histoires qui se passent en Russie, elles sont présentées comme un livre d'images russe du début du 20e ou de fin 19e siècle, quoi, avec des illustrations autour des illustrations, avec une police un peu particulière. Il s'est fait plaisir et c'est magnifique, quoi. Ouais, j'ai fini à peu près.
Non, c'est une très belle BD, hein, qu'on ne peut que vous conseiller par les temps qui courent. Et donc, t'as pas lu d'autres ou vu, d'autres choses autour du baron de Munchausen?
Je commence tout juste. Je sais que Méliès a réalisé un film en 1900 quelque chose, hein, parce que Méliès, 1911. Voilà, je sais qu'il y a un film d'animation que j'ai pas encore trouvé, un petit dessin animé, mais qui date aussi. Et puis des adaptations, il y en a plein. Et des adaptations, des suites, Supio, là, il a inventé d'autres histoires. Enfin, c'est un personnage qui a fait rêver les enfants du monde entier et du coup qui a inspiré énormément d'auteurs, que ce soit en cinéma, en bande dessinée. Parce que toi, tu pensais à quelque chose en particulier?
Non, c'était parce que là, petit à petit, tu nous présentes une bande dessinée, une deuxième,
oui.
Un film. Mais oui, c'est bien, ça, hein, c'est chouette, c'est un vrai univers. Hein.
J'ai même posé la question, c'est vraiment. Enfin, c'est parce que je ne connais pas du tout le baron de Munchausen.
C'est une bonne façon d'apprendre à le rencontrer, de le rencontrer, ça.
Là, je confesse mon inculture la plus totale.
C'était mon cas aussi.
Je ne connais pas du tout. Enfin, de nom, j'ai dû croiser quelque part, mais je ne connais pas du tout. Donc c'est vrai que si c'est une bonne porte d'entrée, je pense que je vais me laisser tenter aussi.
Franchement, ouais, ça m'a complètement convaincu.
Je vais aller chez mon libraire préféré et dépenser un peu de sous.
Ah là, un endroit de perdition,
dans un commerce libraires, essentiel.
Un commerce essentiel, effectivement.
Ah, oui.
Surtout pas les temps qui courent.
Ouais, tu m'étonnes.
Ouais. On en a bien besoin de tout ça. En tout cas, voilà. Je vous conseille fortement de vous laisser emporter n'importe comment par le baron, sur un boulet de canon, dans un bateau volant. Enfin, voilà. C'est super.
Belle proposition.
Ça fait du bien. Bon, et puis ça va être l'heure, donc, de notre petite surprise.
C'est ça. Alors, c'est une nouveauté. Là, on est parti, bon, comme on pouvait être que trois, on s'est dit, tiens, on pourra peut-être voir à trouver un moyen d'avoir un quatrième ou un cinquième participant. Mmh. Et là, du coup, on a imaginé ça. Alors, c'est une petite séquence qu'on a appelée couve de bulle et qui va faire que, bah, un de nos participants habituels nous pose une question. Il va nous décrire une couverture de bande dessinée et nous, on va voir si on arrive à la trouver. Mmh. Et bah, on va peut-être pas, ou on va peut-être, mais on va voir. Donc maintenant, bah, tu vas pouvoir lancer l'enregistrement, Élie ?
Eh oui, je suis prêt. Je vais vous lancer tout ça immédiatement.
Allez, go, go, go !
Hello, hello! Voici la rubrique que vous attendez tous, couve de bulle. La première approche qu'on en a d'une bande dessinée, c'est sa couverture. C'est celle qui va nous donner envie d'ouvrir l'album, puis de le lire. Elle nous informe sur l'histoire et donne une idée du style graphique du dessinateur. La couverture de l'album que j'ai dans les mains, de chez Delcourt 2014, par deux auteurs très connus, scénaristes et dessinateurs, représente un paysage de bord de mer, mais on a l'impression qu'il s'agit du dessus d'une boîte de sardines. En haut, une banderole contenant le titre entoure une sardine avec quelques fleurs, on dirait des tournesols. Une grande partie de l'illustration est occupée par un ciel jaune-vert où volent trois mouettes. Dans le bas, la mer avec ses vagues qui heurtent au second plan des rochers sur lesquels se trouve un phare et au premier plan un quai et une bigoudaine qui regardent au loin. De quel titre s'agit-il ? J'aurais bien envie de le lire. Et vous ?
Bonne question que nous a posé l'ami Jean-Luc. Alors, du coup, est-ce que vous auriez des idées ? Alors moi, j'avoue que j'ai eu quelque chose qui m'est venu tout de suite, mais j'hésite un peu maintenant. Je pensais à une BD muette.
Scénarisée par Lupano, j'ai le scénariste.
C'est ça, moi aussi.
Je sais plus qui est le dessinateur. Alors,
et... Moi, je dois avouer que le lisant quasiment que du comics, c'est du,
t'es
du
hors-jeu.
Manga. Je suis un peu perdu, surtout sur les choses qui datent des années 2010. Je suis plus connu, enfin, je connais plus avant. Sur la BD franco-belge, je ne serai d'aucune utilité pour cette séquence.
Ah là 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 là, là.
Après, peut-être qu'en voyant, quand on dira le titre, je dirais mais oui, c'est oui. Bien sûr, mais là, sur le moment, non.
Le nom, je bute sur le nom.
Alors,
mais
on va parler de l'histoire. Dans mon souvenir, la bigoudaine qui apparaît sur la couverture que Jean-Luc a décrite attend son mari qui est parti en mer et il revient pas. Un tout petit bonhomme, si je me souviens bien. Et du coup, cette bigoudaine ne se déballonne pas, elle monte sur un bateau et elle va vivre des tas d'aventures pour aller récupérer son bonhomme. Et c'est une BD qui parle d'amour. Je crois que dans le titre, il y a quelque chose avec le mot amour, justement.
Oui, mais là, je n'arrive pas à la trouver.
Ah là là, j'ai l'impression d'avoir sur le bout de la langue, des yeux. Enfin, on l'imagine, cette couverture, il la décrit très bien. Ah Jean-Luc, on sait ce que c'est, mais on sait pas comment ça s'appelle. Qu'est-ce qu'on fait ? On lance une petite musique et on regarde la réponse ?
On lance une petite musique, ça va nous laisser, et puis ensuite on va voir si on a trouvé ou pas.
Allez, c'est parti. Alors là, vous allez écouter un truc qui va vous faire voyager, et c'est moi qui l'ai ramené de voyage. C'est du ska moldave, voilà, et c'est un groupe qui s'appelle Shdob Shishdob. La chanson c'est Bune Dimiyatsa, ça veut dire bonjour en fait, bonne journée. Chanson joyeuse.
Aici Chișinău, Radio Moldova, programul 1. Este ora 9.
de dimineața țară, mă trezește soarele, ies afară cu chitara, ciocârlii fanfarele. Sună vesela mea strună, vântul duce muzica, toată lumea cântă melodia mea. Melodia mea frumoasă zboară sus ca pasărea, în dimineața luminoasă înflorește dragostea. Cânte pasărea măiastră, murmură izvorul lin, tot pământul se trezește din zilin. Hopa diritai, hopa diritai, hopa diritai, bună dimineața. Bună dimineața, tată, vreau de bine să vă fie. Bună dimineața, lume, vă salut căci vă iubesc. Bună dimineața, viață, să trăiesc. Opa diritai, opa diritai, opa diritai, bună dimineața. Opa diritai, opa diritai, opa diritai,
on est creusé le ciboulot là, on a cherché, on n'était pas loin.
Ouais, on a presque trouvé, mais...
Et il a fallu qu'on regarde la réponse quand même, quoi.
Quand même. Alors, donc la réponse, est, bah, si vous avez, vous, peut-être eu la réponse en écoutant ce que nous a raconté Jean-Luc, mais donc la réponse est Un océan d'amour de Grégory Panaccione et de Lupano, et qui est paru en 2014. Voilà, c'est un magnifique album. Donc avec au scénario Lupano, Wilfried Lupano, qui est un scénariste très très prolifique,
et
des
beaucoup.
Vieux fourneaux, par exemple, que vous devez connaître, et qui a fait énormément de choses intéressantes. Quelqu'un de brillant, et Grégory Panaccione, qui a fait plein d'autres choses en tant que dessinateur.
Qui était invité au festival de BD, c'était quand, il y a 2 ans?
Oui, il y a au moins
oui,
2 ans.
Au moins,
oui.
Le festival de BD à Tour de Bulle, hein, qui a lieu tous les ans mi-septembre.
C'est ça, et qui aura lieu cette année, on peut vous l'annoncer. Donc, réservez votre week-end, 18-19 septembre, nous serons là, place Châteauneuf.
Avec plein de beaux auteurs.
Avec plein de beaux auteurs.
Plein de belles expos.
Qui viendront vous raconter de belles histoires, de voyages ou pas, hein, puisque cette année, le thème sera désobéissance. On a déjà plusieurs expos de prévues, une belle soirée d'ouverture au cinéma studio. Enfin bref, je pense que ça va être top quoi.
Oui, on attend.
Et là, je crois que Ellie va nous présenter son deuxième album.
Alors tu nous amènes en voyage où toi Ellie?
Au Japon.
Ah ouh, pas mal.
Avec Souvenir d'Emanon, dur à dire.
Alors Souvenir de?
D'Emanon.
D'Emanon. C'est qui Emanon?
Emanon, c'est une d'apparence jeune fille qui ressemble à une étudiante qui croise le personnage principal en rentrant de voyage. En fait, le personnage principal est un homme qui rentre de voyage.
Mm-hmm.
Après passer une année d'errance à droite, à gauche, il rentre chez lui en bateau. Et il fait la connaissance d'Emanon, qui est une d'apparence jeune fille qui fume cigarette sur le pont du bateau. Et en fait, elle lui raconte son histoire, et son histoire, c'est celle d'une... on ne sait pas trop si c'est une âme, mais en tout cas, elle est quasiment immortelle, elle était là avant, et elle sera là après.
Oh.
Et donc, vous savez que je l'ai lu il y a très très longtemps.
Alors déjà, c'est qui l'auteur? Parce que je ne suis pas sûre qu'il nous ait dit.
Le scénariste, c'est Shinji Kajo.
Tu savais qu'il n'y a pas choisi le Japon.
Hein. Et le dessin, c'est Kenji Tsuruta. Non, Tsuruta, pardon. Excusez-moi.
Allez, gâteau.
Donc, aux éditions Latitude, qui est une branche de Kiun, il me semble, célèbre éditeur de manga. En fait, c'est pas très radiophonique, mais pour les auditeurs, c'est un manga grand format. Pour laisser la place aux dessins qui sont magnifiques, en fait, il y a des...
c'est une histoire complète, ça?
C'est une histoire complète.
Parce qu'il y a aussi pas...
Il y a plusieurs... mais ça, c'est un récit complet, parce qu'en fait, Emanon, c'est une série de romans au Japon, qui a été adapté en manga, là. Et en fait, il y en a plusieurs. Mais là, c'est vraiment ses souvenirs. Et donc, en fait, elle lui raconte son histoire, celle d'une âme immortelle qui était là, enfin, qui a 3 milliards d'années, à peu près, donc qui était là bien avant nous, et qui sera, normalement... C'est... Et tout le jeu, savoir, c'est est-ce qu'elle raconte des bêtises à ce pauvre gars qui rentre chez lui après un long voyage, ou pas, en fait. Et on ne sait jamais, c'est jamais réellement révélé.
Je parie qu'à la fin de la BD, on le sait pas.
Non, c'est vraiment jamais révélé, en fait. C'est sans spoiler, on ne sait pas si elle raconte des bêtises ou si elle a vraiment vécu tout ça, en fait. Tout ce qu'elle lui raconte. Et c'est très beau.
C'est la fille du baron de Munchausen.
Oui, j'étais en train de me dire la même chose.
Et donc, oui, non, mais les dessins sont très beaux. Je peux vous montrer à mes petits camarades, par exemple.
Ouais, c'est en noir et blanc. Hein,
c'est du manga. Donc
ouais, la couverture est très colorée, ouais. Avec ciel magnifique.
Comme souvent, mais après, c'est des pages comme ça.
Et tu la prêtes, par exemple, cette BD?
Bien sûr, je la prête.
Ça pourrait m'intéresser, ça, dis donc.
Parce qu'en plus, ce serait plus du manga à rapprocher de Taniguchi, par exemple, des choses un peu moins...
Moins rapide, plus contemplative.
Voilà, qui sont plus adultes. Enfin, c'est pas ça, parce que le manga, c'est beaucoup plus.
Plus dans des.
Généralisant, ce qui en manga est quand même plus adolescent.
Oui, c'est l'humour, c'est la violence, c'est. Voilà.
Bah, pas que, mais. Non, mais ce qui marche le mieux, on va pas se mentir, malheureusement.
Les histoires d'amour.
On va pas là pour juger. Hein.
Non, moi, puis on peut aimer bien.
Passionné de shonen, ça me va aussi. Hein.
Ok.
Bon, bah, très bien.
Et alors du coup, c'est un voyage au Japon, on a de belles images de...
En fait, c'est un voyage en bateau retour en bateau. En fait, c'est le retour du voyage. Mais elle le fait voyager, en fait, par son récit qui, on ne sait pas si elle a vraiment vécu tout ça ou pas. Et en plus, c'est teinté de mélancolie tout le temps, parce que lui, je ne me rappelle plus exactement pourquoi il était parti en voyage, mais c'est un voyage, comme il est dit là, sur 4ème de coupe, c'est un voyage d'errance qu'il a fait, donc... On fait pas un voyage d'errance pour s'amuser en général. Tout cet album est teinté de mélancolie. C'est la meuf qui te raconte ces choses, elle a toujours des expressions mélancoliques. La couverture fait pas trop, on sent pas la joie. Quoi.
Non, pas trop.
Ça, c'est très. C'est quelque chose qui est très peu développé finalement dans la bande dessinée, on va dire franco-belge. L'aspect mélancolique d'un personnage ou d'un moment. On n'est pas. C'est pas très courant, quoi. C'est. Hein. Oui, cette espèce de quête ou la notion du temps, et on sent bien qu'il y a quelque chose de différent dans les mangas quand même.
Oui, bah, je pense que c'est inhérent au fait que le Japon, ça soit... Enfin, le Japon, c'est très grand, mais il y a 30% de l'île qui est vraiment habitable. Tout le reste, c'est de la montagne. Peut-être propre à la contemplation et à la mélancolie. Je sais pas, c'est peut-être des conditions géographiques qui font que... En plus, c'est plein de petites îles disséminées, donc il suffit que ça soit à Okinawa. On peut se retrouver vite tout seul. Donc propre à la mélancolie, je sais pas.
Oui, je sais pas, j'ai pas de
réponse. Pour moi, c'est une de mes explications. Après, je me trompe peut-être, c'est une des théories que j'ai. Peut-être que la géographie du Japon fait qu'on ait plus tendance. Ou la culture aussi, parce qu'ils aiment bien. Enfin, les stands, par exemple, c'est contemplatif. Il se passe pas grand-chose. pourtant c'est
beau. Bah, on peut être contemplatif devant un champ de blé, hein,
oui,
ou une forêt, enfin.
Oui, oui mais c'est vrai qu'en Europe,
c'est moins courant, c'est pas, voilà, c'est ça.
Non, puis dans les mangas, il y a
la religion qui est différent aussi.
Là, il y a la notion de sensation aussi dans certaines BD, comme les gouttes de Dieu, les larmes de Dieu, je ne sais plus le titre.
Les gouttes de Dieu.
Où on essaye de dessiner un goût. Alors ça, il faut y aller quand même. Et enfin, le promeneur solitaire aussi, où on passe la BD à découvrir des plats japonais, des ambiances de restaurants.
Ouais. Les Japonais sont très forts pour faire des mangas sur tout. Dès qu'ils aiment bien, l'auteur aime bien ça, je vais faire ça. Il y a un manga, je ne sais plus comment il s'appelle, mais ça m'a fait marrer, je l'ai vu passer une fois, c'est sur le camping.
Ah oui,
ils ont d'accord. fait un sur le camping.
On a bien fait un film.
C'est sponsorisé par Trigano ou...
Je ne pense pas. J'espère pas.
Du boss dedans.
Je ne pense pas. J'espère
pas. Décathlon, enfin bon.
Ah ouais, la forme. Bah écoute, en tout cas, merci Élie, moi ça m'intéresse.
Comme vous l'avez remarqué, c'est coup de bulle, c'est quand même un lieu d'échange. Hein. On échange les bandes dessinées, parce que voilà, on partage. C'est aussi ça, on se fait découvrir les uns les autres des choses, hein, parce que on est loin de tout connaître.
Et fort heureusement qu'on ne connaît pas tout, sinon on s'ennuierait rapidement.
C'est clair.
Alors, est-ce qu'on refait une coupure musicale? On avait évoqué cette idée.
Une petite, oui.
Et dans l'idée de partage, je vous envoie du Chic Planète de l'affaire Louis Trio. On retourne aux années 90, les gars. Allez, il faut voir le clip. Hein.
Plus rien.
maintenant, on va vous représenter deux bandes dessinées pour faire la suite. Sur le thème du voyage, moi, je vais vous présenter Nos vacances au Bled de Shadia Shaibi Louès Lati aux éditions Marabule. Shadia est venue déjà deux fois
notre
au festival.
Copine.
Ah ouais. Et voilà, donc Nos vacances au Bled, c'est le deuxième tome, on va dire, de son autobiographie, puisqu'elle raconte dans le premier Famille nombreuse son enfance et la vie de ses parents qui sont venus de Tunisie dans un HLM à Drancy et de sa famille très nombreuse, puisque je crois qu'ils étaient
10. Une dizaine de frères et sœurs, oui.
Ouais. Et donc toute cette vie à la fois mouvementée, chaleureuse, vivante, enfin vraiment, moi j'ai passé pour le premier album.
On est avec eux.
Ah ouais, on est avec eux et puis c'est que du bonheur. Et dans ce deuxième tome, Nos vacances au Bled, elle raconte leur retour pour les congés de sa famille au Bled, c'est-à-dire le lieu de naissance et de la prime enfance de ses parents et de leurs projets aussi de se construire une maison de famille pour retourner une fois qu'ils seront à la retraite dans cette maison. Alors c'est voilà. Alors autant le premier était bicolore dans le sens il était
jaune et noir.
Celui-ci est orange et noir. Et blanc évidemment.
Ah, oui.
Et puis
alors tu te rappelles pourquoi il est orange? Parce qu'il y a une raison en fait.
J'ai dû le savoir.
Il me semble qu'elle explique comment faire du caramel avec l'orangina, ou en tout cas, il y a l'orangina qui apparaît dans le. Parce qu'il y a une question d'épilation qui revient beaucoup dans la BD.
Tout à fait.
L'épilation au caramel est évoquée dans la BD, douloureusement, par l'auteur. Et puis, il y a aussi une histoire de aîné.
Qui
est évoqué douloureusement aussi par
c'est
l'auteur. D'où le orange de la bande dessinée. Elle est drôle.
Ouais. Non, c'est vraiment alors là pour passer un bon moment. Enfin, moi je sais pas. C'est une famille qu'on a envie de connaître. Il y a de l'amour. C'est formidable. Et puis il y a aussi ça s'appuie sur de la vraie vie quoi. C'est de l'autobiographie donc romancée forcément hein, puisqu'il y a des choses qu'on sait pas tout, mais c'est des anecdotes qui sont mises les unes après les autres et qui donnent quelque chose de très riche et de vraiment
très juste.
De très juste. Et de touchant, et voilà. Ça fait quand même. C'est un album qui fait 200 pages, mais qui se lit facilement. C'est un très très grand plaisir.
On charge la voiture avec eux, on fait les courses avec eux, on voit l'appartement se remplir et leur zone de confort diminuer. On dort par terre sur une natte avec. Moi j'ai eu l'impression d'être dans les mêmes sensations.
On est vraiment. Non, c'est formidable. Hein, c'est vraiment.
Chouette.
Et puis chaque enfant, chaque personnage qui compose la famille a ses propres caractères, son caractère, avec ses différences, ses conflits, c'est vraiment un très très grand plaisir de lire un album comme ça.
Oui, mais moi j'ai pas encore lu celui-là, j'ai lu Famille nombreuse, et en même temps, moi je l'ai acheté parce que quand elle était sur le festival, justement, elle était là, je l'ai rencontrée, et personne n'est adorable. Je veux lire sa BD.
Adoptez-moi.
C'est ça. Je lui ai fait des questions, on a passé 20 minutes comme ça, discuter.
Ouais.
En plus, pour l'anecdote, ses parents se sont installés à Drancy. Moi, je vivais à Aulnay-sous-Bois, c'est-à-dire que c'est une des villes voisines de Drancy. Donc, on a pu échanger aussi sur les lieux. Et là, donc, c'était encore plus rigolo.
Ah ouais, chouette.
Ouais. Donc, ils sont en banlieue parisienne.
Pas la meilleure banlieue, je ne veux pas vous cacher.
C'est le 9-3, on va dire.
C'est le 9-3, puis pas le meilleur 9-3, mais on s'en sort bien. Hein.
Ouais. Là, du coup, c'est la Tunisie.
C'est ça. Voilà, donc c'est un voyage en Tunisie, tout ce qu'il y a de simple, parce qu'ils partent en avion et en voiture, une 504 break, forcément.
La fameuse 504 Peugeot.
C'est ça. Alors, c'est vraiment, une famille formidable, quoi, on va dire. Clairement.
Alors, on passe à la dernière BD, c'est à mon tour de jouer. Moi, je vais vous parler de voyage, on va dire plutôt intérieur. Là, pour le coup. D'ailleurs, dans cette BD, le personnage principal dit, je le cite, « Heureusement qu'on peut voyager sans sortir de chez soi. » Tulipe, l'ours Tulipe.
C'est aussi un truc pour le confinement, ça. Hein,
ouais, alors du coup, je m'en suis presque voulu après coup, mais j'avais vraiment envie de la partager parce que Tulipe, c'est un copain qui m'a prêté la première, je l'ai achetée. Et puis, du coup, il m'a prêté la deuxième. Et en fait, il y en a une troisième que j'ai pas encore lue. C'est de la philo. dessiné de façon absolument adorable et tendre. On a beaucoup comparé le travail de Sophie Guérive aux Peanuts.
D'accord.
Et voilà, je trouve beaucoup ça dans les critiques sur Internet. Pourquoi c'est... pas?
Donc c'est plutôt des strips alors ou
c'est plutôt des strips. Alors dans le premier, elle faisait des strips de 9 cases ou des illustrations pleines pages. Là, dans le deuxième, elle a encore changé un petit peu de format. Il y a des histoires plus longues qui peuvent faire plusieurs pages. Les damiers sont de 16 cases souvent. Et puis, tu as des illustrations encore en pleine page, mais absurdes, enfin, qui portent une part de fantasme assez fort. Moi, c'est des BD, comment dire, qui font du bien. C'est des BD où tu souris en tournant les pages. T'as pas trop le moral, tu l'ouvres, tu te sens tout calme en le refermant. Parce que chaque conversation apporte une petite pierre de douceur. Les personnages sont un serpent, un oiseau bleu, un œuf. Dans cette BD-là, il y a un œuf qui arrive. On sait pas un œuf de quoi. D'ailleurs, à la fin de cette BD, il n'a toujours pas éclos. Et tous les animaux font des pronostics sur ce qui va en sortir, ça c'est génial. Là, dans celui-ci, il y a une chauve-souris aussi, mais qui ne veut jamais se montrer, une taupe. Enfin bref, chaque animal porte une caractéristique, un caractère humain, un défaut, on va dire. Le serpent est hyperactif et il a absolument envie de vivre des tas d'aventures. L'oiseau violette est amoureux du soleil, amour impossible, et elle pense qu'elle est laide. C'est une fille pleine de complexes, quoi. L'ours... Et le plus méditatif, d'ailleurs, il est amoureux d'un arbre, lui. Mais finalement, c'est un amour à sens unique, puisque l'arbre ne lui répond jamais. D'ailleurs, il pense qu'il n'est pas aimé en retour, mais l'arbre lui pense, en fait. Et on entend l'arbre dire « Mais tu sais très bien que c'est réciproque, sinon tu ne t'assierais pas près de moi tous les jours. » Et cet ours, qui paraît le personnage le plus calme de la bande, c'est le plus névrosé, en fait. Il le dit de temps en temps, ça sort de sa bouche. Il a mal. Il a peur, mais sa solution à lui, justement, c'est de ne pas bouger. Après, dans cette BD, il va aider, par exemple, Violette, l'oiseau amoureux du soleil, à aller rencontrer le soleil. Donc, elle va partir dans l'espace, elle va découvrir que finalement, l'espace, c'est des couches de ciel, de terre, de ciel, de terre, de ciel, de terre, qu'on peut traverser jusqu'à la maison de la taupe. Et finalement, rentre à la maison, parce que elle découvre que la Lune est peuplée de loups. Donc c'est un endroit pas sexy d'ailleurs, ça tombe bien parce qu'elle est un peu jalouse de la Lune puisque le Soleil a eu une aventure avec. C'est barré et c'est tout doux, c'est tout tendre. Encore une fois, les
la couverture est très chouette. Hein. Je l'ai pas lu, mais c'est des jolies couleurs. Et puis effectivement, on sent bien un univers tranquille, accueillant.
Hyper intelligent. Ouais. Hyper intelligent et avec des voilà. La vie c'est douloureux, mais avec des pauses crêpes ça passe. Et chaque personnage vit un amour impossible, des questionnements constants. Mais la solidarité aussi entre les personnages fait que ça passe. Il y a un caillou qui n'arrête pas de gémir de son immortalité. Alors, on lui explique qu'un jour, il deviendra un grain de sable. Enfin, il y a vraiment des dimensions terribles dans chaque conversation. On peut aussi comparer un peu ça au BD de Kino, quelque part. Enfin, c'est ces auteurs-là, moi, je trouve qu'ils font du bien. Voilà, donc Le Voyage, parce que cette BD s'appelle quand même Les Voyages de Tulipe. Mais les voyages, encore une fois... Ça peut être un voyage initiatique, c'est un voyage à l'intérieur de soi, c'est un voyage vers les autres. C'est aux éditions 2024. Je ne connaissais pas trop cet éditeur-là. Je ne sais pas si vous connaissez.
Non, pas du tout. Non, vraiment.
Elles sont assez récentes. Hein. La première est sortie en 2016, la deuxième en 2017, et puis il y en a une troisième.
C'est l'éditeur qui mettra la clé sous la porte en 2024, peut-être.
Mais elle a eu une expo à Angoulême, Sophie Guérive, sur son travail. Hein. Elle a été nominée plusieurs fois pour ses albums. C'est du lourd.
Ah oui, mais pas du tout, je ne la connais. Mais alors, pas du tout.
Ah, bah, je ne connaissais pas non plus, je conseille.
Ouais, ouais.
Fortement.
On te l'a prêtée, celle-là.
Je peux prêter la première parce que du coup, je l'ai rachetée.
D'accord.
Tellement je l'aime bien.
Je postule.
Tiens, hop. Voilà.
Merci. Les aventures de Tulipe, qui ne vient pas de Hollande, hein, comme on pourrait... Je fais mon Jean-Luc.
Voilà. Une petite pensée au président.
C'est ça.
Bon, alors, je crois qu'on arrive tout doucement vers la fin de l'émission.
C'est ça, hélas, vous allez vous quitter. On va juste vous dire un petit mot sur, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, du festival donc à Tour de Bulle qui aura lieu le 18 et le 19 septembre. Notez ça sur vos tablettes et puis on va vous redonner l'ensemble des bandes dessinées qu'on a présentées. Ellie,
alors moi je vous ai présenté Descender par Jeff Lemire et Dustin Nguyen aux éditions Urban et Souvenir d'Enamon Emanon je ne referai pas l'affront de reprononcer
Shinji Kajiyo et Kenji Tsuruta, bon d'accord,
merci. Aux éditions Latitude.
Voilà, je vous ai présenté le tome 1 de Valérian, l'Empire des Mille Planètes, aux éditions Darko, et Nos Vacances au Bled de Shadia Shaibi-Louis-Lati chez Marabule.
Et de mon côté, j'avais Le Baron de Jean-Luc Masbou chez Delcourt, qui est sorti cette année, et Les Voyages de Tulipe de Sophie Guérive aux éditions 2024.
Voilà, je crois que plein de belles lectures, très différentes les unes des autres.
Et n'hésitez pas à lire le Supio aussi, si vous voulez lire du Baron.
Vous pouvez tout lire de Supio.
Non, lisez de toute façon, lisez. Que ça.
Fréquentez des lieux essentiels.
Exactement, tant qu'il y en a.
Voilà, on envoie le générique de fin, Ellie.
Allez, envoyons le générique de fin.
Allez, c'est parti. À bientôt.
Prenez soin de vous.